Aujourd'hui, mon texte se trouve dans l'Évangile selon Jean et le chapitre à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Et vous parlez de la nécessité de la nouvelle naissance. C'est ceci le sujet que notre Seigneur Jésus-Christ traitait avec cet homme religieux, juif, un chef des juifs, et lui montrer que malgré sa moralité qu'il imaginait avoir, malgré sa position dans la communauté religieuse où il vivait, et même le respect des hommes qu'ils avaient pour lui en tant qu'homme religieux, que rien dans cela ne pouvait le rendre capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est un sujet très important aussi pour notre génération, parce qu'il faut dire que nous vivons dans une génération religieuse, comme au temps de Christ, au premier siècle. Rien n'a changé. L'homme est religieux, mais perdu. C'est parce que tous ceux qui sont des êtres humains, descendants d'Adam, le premier homme que Dieu a créé depuis la chute d'Adam, chaque homme, chaque femme né dans ce monde est né sous la malédiction du jugement rendu à Adam, parce que c'est lui qui était le représentant de toute sa race. Nous voyons ça clairement dans les Écritures. C'est par lui que le péché est entré dans le monde, et à travers le péché, la mort, c'est tout ce que nous pouvons recevoir de notre père Adam, c'est la condamnation, c'est la mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'était effectivement de représenter cette race ou bien ce peuple que le Père lui a donné depuis l'éternité. Donc il y a le premier Adam et puis il y a le dernier qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu dans ce monde non pas pour essayer de sauver tous les êtres humains. Je sais que c'est le message populaire aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus est venu sauver cette race de pécheurs que le Père lui a donné. Il faut savoir que cette race s'agit de plus que des Juifs. Nous savons que les Anciens Testaments, les livres de l'Ancien Testament nous annoncent que le Messie devait venir, mais les Juifs cherchaient un Messie juif. Et bien sûr, Christ était de la lignée de David, donc de la tribu de Judas. Tel était l'enseignement de l'Ancien Testament à son sujet. Donc, on pouvait dire en tant qu'homme, il était né de cette race juive. Mais nous ne pouvons pas imaginer par là alors qu'il est venu simplement pour sauver les Juifs. La Bible nous dit qu'il y a des pécheurs de toute langue, de toute race, qu'il est venu sauver. Donc, telle est la race du Seigneur Jésus-Christ qu'il représente. Et je peux vous dire que chacun de ceux que le Père lui a donné par l'élection de la grâce, c'est pour eux qu'il est venu donner sa vie en sacrifice, et par sa mort à la croix, il a effectivement sauvé chacun de ceux qu'il représente comme la tête de cette race-là. Donc on peut peut-être poser la question, comment on peut reconnaître ceux pour qui Christ est mort? Et c'est une bonne question. Et nous avons la réponse ici dans mon texte, en Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 12. Nicodème était un de ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Il ne savait pas à ce moment-ci, lorsque Christ l'entretient, il prend cet entretien avec lui, mais c'est évident à travers le reste de l'évangile selon Jean que Nicodème était un qui plus tard s'est identifié avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Alors, voilà un juif que le Seigneur Jésus est venu sauver et par sa mort a sauvé et effectivement par son esprit a attiré à lui-même. À travers ce chapitre 3, le Seigneur démontre à Nicodème ce que c'est la nouvelle naissance. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans les prédications à ce sujet. Les prédicateurs prêchent la nouvelle naissance comme si c'est un acte que le pécheur doit accomplir ou faire pour naître de nouveau. Mais lisons ces versets pour savoir la nature de la nouvelle naissance et la nécessité de la nouvelle naissance. Mon texte commence dans le verset 3, mais je vais lire à partir du verset 1 pour le contexte que nous avons vu la dernière fois. Donc Jean 3, 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il avait de bonnes choses à dire au sujet de notre Seigneur Jésus, comme beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Il y a toute une population qui lit la Bible et qui voit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Et cela respecte le Seigneur Jésus en tant que Fils de Dieu et lui donne ce respect même comme Nicodème. Mais cela ne veut pas dire qui sont nécessairement alors enfants de Dieu. C'est pourquoi dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors voilà une expression qui a choqué Nicodème, parce qu'il s'est présenté à Christ comme son rival, quand il s'adressait à Christ comme rabbi, c'était un titre que Nicodème aussi acceptait de la part des gens sur qui il était leur chef. Mais maintenant, Christ est en train de lui dire, si lui, Nicodème, ou n'importe quel pécheur, ne naît de nouveau, dans l'original, cette phrase signifie « naître d'en haut ». Ça nous montre clairement que la nouvelle naissance n'est pas de l'homme. Si c'est une question de naître d'en haut, cela veut dire alors que c'est tout à fait dans les mains de Dieu. Mais le point que je voudrais souligner ici, et c'est de ça que je tire le titre de cette étude. C'est la nécessité de la nouvelle naissance. Quelle que soit la marche extérieure de quelqu'un et en regardant, on peut imaginer ou dire, ah voilà, un bon chrétien. Ça, c'est une expression que les gens aiment utiliser aujourd'hui, un bon chrétien. Mais il y a la même qualification si quelqu'un ne naît de nouveau. Cela veut dire est né d'en haut, de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que sans la nouvelle naissance, de telles personnes restent dans l'aveuglement. C'est le contraste que nous avons entre voir et ne pas voir. Il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, de telles personnes restent dans l'aveuglement dans lequel ils sont nés. Et Nicodème lui dit, voilà maintenant ce que le Seigneur est en train d'exposer du cœur de Nicodème, parce que c'était un homme intelligent. C'était un homme religieux. Il n'est pas devenu chef des Juifs simplement. Non, il a dû grimper l'échelle pour arriver à ce titre. Mais voilà sa question qui démontre son ignorance au sujet de cette question de la nouvelle naissance. Nicodème lui dit, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, déjà par sa réponse, il démontre son ignorance. Alors, Jésus répondit, verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, par comparaison, dans le verset 3, « il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut même pas considérer ou comprendre ce que c'est le royaume de Dieu. » Et là encore, il y a beaucoup d'ignorance, mais aussi, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, voilà la nécessité de la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, il n'y a aucune preuve qu'un pécheur est véritablement l'enfant de Dieu. Donc, un sujet très important. Et Christ dit dans le verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Il parle là de la naissance physique. Et il y a beaucoup de comparaisons que nous pouvons voir entre la naissance physique et cette naissance spirituelle qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. La naissance physique, c'est la manière d'entrer dans la vie. La naissance spirituelle, c'est la manière de recevoir la vie éternelle. Mais comme dans la naissance physique, ce n'est pas l'enfant qui conçoit sa naissance ou bien qui appart à sa naissance par sa volonté. Je sais qu'aujourd'hui, les prédicateurs aiment prêcher la décision de l'homme et le libre arbitre pour dire que c'est à l'homme maintenant de choisir de naître de nouveau. Mais c'est ridicule d'imaginer comme ça. Imaginez un bébé qui a pris la décision de naître. Nous savons que ce n'est pas à l'enfant de décider, non plus le pécheur. Donc, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire que si quelqu'un naît dans ce monde physiquement, et c'est la seule naissance que cette personne ne connaît, donc cela veut dire qu'il va mourir aussi, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il n'entrera point dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi encore la nécessité de la nouvelle naissance. Il y a la naissance physique, et puis verset 6 dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a cette naissance spirituelle. C'est pourquoi il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Notez, ce n'est pas écrit, ne t'étonne pas que je te supplie. Ou bien je t'invite à naître de nouveau. Non. Il fait simplement une déclaration à Nicodème. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, que je te fais cette déclaration, Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Christ ici n'est pas en train de donner à Nicodème quelque chose à faire. Simplement, il est en train de lui dire que si Dieu, dans sa grâce, ne lui donne pas ce don de la nouvelle naissance pour le faire naître de nouveau, naître d'en haut, alors il ne peut jamais croire qu'il est dans le royaume de Dieu. Et voilà le verset clé dans le verset 8. Le vent souffle où il veut. Donc voilà une illustration du vent qui souffle. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut donner la direction au vent, de dire au vent, il faut souffler ici ou là? Non, le vent souffle où il veut. Le vent souffle selon la direction de Dieu lui-même. Parce que ce monde appartient à Dieu, c'est lui qui décide. Si le vent va souffler dans une région ou l'autre, tout cela c'est selon la volonté de Dieu. De même, Christ dit ici dans le verset 8, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc il y a des parallèles aussi entre le vent et l'esprit, parce que l'esprit est l'esprit. On ne voit pas l'esprit, mais on voit l'effet de l'œuvre de l'esprit. Donc la manière de connaître, de savoir si quelqu'un est véritablement enfant de Dieu, c'est dans le fruit qu'on constate dans la vie d'un pécheur, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Encore, je fais ici une petite comparaison entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un bébé est né? On peut peut-être dire, mais ça c'est ridicule, parce que dès que l'enfant sort du sein de sa maman, on entend le cri, le bébé respire, il y a le souffle, et donc nous voyons que l'enfant est en vie. Mais spirituellement, il faut dire que c'est la même chose, que lorsqu'un pécheur est né de nouveau, né de Dieu, il y a le souffle, il y a la vie, et il y a aussi le cri vers Christ, c'est-à-dire il y a dans ces pécheurs-là maintenant une vie qui pousse ce pécheur vers Christ, exactement comme le bébé qui est né cherche maintenant le sein de sa maman pour allaiter. Nous cherchons Christ qui est notre lait. Nous cherchons à buver de sa personne et de nous nourrir de sa mort et ce qu'il a accompli pour les pécheurs comme nous. Tels sont les signes de la nouvelle naissance. Et le verset 8 souligne cela. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On ne peut pas diriger l'esprit pour dire qu'il faut aller faire naître celui-ci ou bien faire naître celui-là. Je sais que les hommes imaginent pouvoir influencer Dieu en ce qui concerne la conversion des pécheurs. Mais nous avons déjà vu ici dans Jean, le premier chapitre, et le verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu, c'est une autre manière de dire tous ceux qui sont nés de nouveau et qui croient en son nom. Voilà l'évidence d'être né de nouveau, de croire en Christ tel qu'il est révélé ici dans les Écritures. C'est écrit, elle, c'est-à-dire la parole qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette décision ne réside pas avec l'homme, mais avec Dieu et ce que le Père a donné à Christ. Et c'est écrit dans Jean 1, 12, lesquels sont nés, donc la nouvelle naissance, non du sang. Cela veut dire qu'un enfant ne peut pas recevoir ce don de vie spirituellement de ses parents. Même si l'enfant est né dans une famille où les parents sont des chrétiens, cela n'assure pas alors que les enfants seront chrétiens, lesquels sont nés non du sang. Et notez bien, ni de la volonté de la chair. Ça ne dépend pas de chacun de dire, alors je dois me faire naître de nouveau, je dois prendre ma décision. Non, non de la volonté de la chair, mais aussi ni de la volonté de l'homme. Cela veut dire, quand on demande aux amis, mais il y a tel ou tel qui n'est pas converti, alors mettons-nous à prier ensemble. Et comme les gens disent, là où deux, trois sont d'accord sur quelque chose, alors Dieu doit. C'est comme une manière d'obliger Dieu de sauver et de convertir les gens. Mais ici, c'est écrit, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien sûr, si Dieu met sur nous un fardeau, et c'est véritablement de Dieu de prier pour quelqu'un, mais toujours nous devons prier que sa volonté soit faite. Alors, c'est une œuvre de Dieu. Mais encore, à ce moment-là où Christ avait cet entretien avec Nicodème, Nicodème était encore dans l'ignorance. Dans Jean 3, verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Nous ne pouvons pas appréhender la nouvelle naissance par notre logique ou par nos recherches ou notre intelligence. Cela est prouvé là par Nicodème. Il était un homme intelligent. Il avait, par la grâce de Dieu, une intelligence qui lui permettait de connaître et comprendre beaucoup de choses. Comme tout le monde d'ailleurs, il y a une intelligence naturelle que Dieu donne à chacun de ces êtres humains. Mais cela ne suffit pas de naître de nouveau. Alors il pose la question, comment cela peut-il se faire? Et remarquez encore la réponse de notre Seigneur. Il n'a pas essayé de lui donner des étapes pour arriver à la nouvelle naissance. Il a simplement dit dans le verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Le mot docteur signifie enseignant, celui qui enseigne d'autres, et tu ne sais pas ces choses. Voilà encore un point que nous devons reconnaître. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur beaucoup de sujets, parce que Nicodème, étant un pharisien, il dirigeait les cultes. Et à la base de ces cultes était la lecture de l'Ancien Testament. Et puis, il prenait le temps d'expliquer les passages de l'Ancien Testament à l'auditoire. Mais il faisait cela sans être né de nouveau. Il y a beaucoup qui sont choqués d'entendre que celui qui prêche pour eux, celui qu'ils appellent pasteur, ou prêtre, ou qui que ce soit, les gens que d'autres regardent avec respect sont des hommes inconvertis. Cela veut dire l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Je comprends bien cette situation parce que je vivais moi-même sous une fausse profession. Moi-même, j'ai grandi sous l'enseignement que la décision dépendait de moi. Et quand j'étais encore un jeune homme, je me suis agenouillé un jour pour clamer de Dieu le salut. Je le dis maintenant à ma honte, mais c'était ce qu'on m'a dit de faire, de m'agenouiller et de dire à Dieu que j'étais un pécheur et maintenant, basé sur les promesses de la Bible, je clamais maintenant le salut de lui, disant qu'il fallait qu'il me sauve parce que j'avais fait ma confession. Et pendant des années, je vivais sous cette erreur, imaginant que j'étais un enfant de Dieu. Bien sûr, par l'élection de la grâce de Dieu, j'étais son enfant. Et lorsque Christ est venu, il avait déjà versé son sang pour moi. Mais ce n'est que lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi, et cela après que j'étais déjà en Afrique, en train d'organiser une œuvre là-bas, bien sûr, zélée pour Dieu, mais dans l'ignorance, parce que j'ignorais ce que c'était la nouvelle naissance. Bien sûr, je prêchais la nouvelle naissance, mais je prêchais ça comme une coopérative entre Dieu et l'homme. Donc, c'est encore dans l'ignorance. Et ce n'est que lorsqu'il a plu à Dieu de m'ouvrir les yeux, que je commence à relire ces passages que je connaissais bien, de voir que non, le salut est de Dieu du début jusqu'à la fin. Et effectivement, c'est ce que nous voyons au sujet de la nouvelle naissance. C'est nécessaire à cause de la corruption de notre chair. C'est pourquoi, dans le verset 6, c'est écrit, ce qui est né de la chair est chair. On ne peut jamais comprendre ou entrer dans le royaume de Dieu selon cette chair, par les œuvres de cette chair. Non. C'est clair, comme nous avons déjà vu dans Jean chapitre 1, le verset 13, que la nouvelle naissance est effectuée par Dieu lui-même, et il faut dire que c'est à travers l'œuvre du Seigneur Jésus, ce qu'il a accompli à la croix. La nouvelle naissance est le fruit de ce que Christ a accompli à la croix, et donc révélé maintenant par le Saint-Esprit, tel que nous avons vu dans Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Alors, Christ a simplement fait cette remarque à Nicodème dans le verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Quand Christ dit, nous disons, il parle au pluriel, donc de qui il parle quand il dit nous disons. Nous savons que Christ est Dieu dans la chair et en lui habitait toute la divinité. Ça veut dire le Père et le Saint-Esprit étaient en lui. Quoique une seule personne, Christ, néanmoins en lui était le Père et le Saint-Esprit. Donc, nous peut représenter cette divinité qui est Dieu, le Dieu de la Bible. Mais aussi, Christ qui est la parole. Faut pas ignorer que c'est comme ça que l'apôtre Jean a débuté cet évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, verset 14, a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc, Christ est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il dit ici dans le verset 11, « Nous disons ce que nous savons », il est en train de s'identifier avec la parole écrite. Les écritures que nous tenons dans notre main, surtout les écritures de l'Ancien Testament, desquelles Nicodème se disait docteur, enseignant, il imaginez comprendre, connaître bien ces écritures, et d'un point de vue, on peut dire, il était effectivement doué dans les écritures, surtout dans les langues, dans l'hébreu, et dans le sens étymologique des mots, peut-être, mais toujours dans l'ignorance. C'est comme beaucoup aujourd'hui qui se disent docteurs et même se tiennent à mettre ce titre derrière leur nom, attacher ça à leur nom. Et ils ont fait des études et ils peuvent bien expliquer des parties de la Bible, mais qui n'ont jamais vu que toutes les écritures s'agissent de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ, de Genèse jusqu'à Apocalypse, qui est le sujet. Les Écritures parlent de lui. Nous allons voir ça dans les chapitres à venir, surtout dans Jean chapitre 5 et le verset 39, où le Seigneur Jésus disait à ses dirigeants de son époque, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il y a beaucoup qui se vantent d'avoir une main forte sur les Écritures pour comprendre, expliquer aux autres, et ils imaginent, parce qu'ils ont pu saisir selon eux, le sens de ces écritures, alors qu'ils ont en elles la vie éternelle. Et Christ dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, c'est la même chose ici au sujet de Nicodème. Christ dit, en vérité, le verset 11, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Tout ce que Christ disait, déclarait, était conformément aux Écritures. C'est pourquoi il est venu accomplir tout ce qui est écrit. Et il dit, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc encore, voilà la parole dans la chair qui prend le témoignage de la parole écrite, inspirée de Dieu pour dire nous. Rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nicodème ignorait qu'il était effectivement face à l'auteur de cette parole. C'est comme si vous êtes un jour au marché et vous êtes dans une librairie. Vous êtes en train de regarder les livres et à côté de vous se tient quelqu'un qui commence à s'entretenir avec vous pour vous expliquer le sens du livre que vous avez dans votre main. Et vous êtes étonné du fait qu'il connaisse si bien le sens de ce livre et en lui posant des questions sans savoir qu'effectivement c'est l'auteur lui-même qui est à côté de vous. C'est comme ça avec Nicodème. Il était un étudiant des Écritures et même se disait docteur, mais Christ est en train de lui montrer que, en effet, ces Écritures dans lesquels il était si doué concernait lui-même, concernait Christ, et que le témoignage de Christ était conforme à ce témoignage des Écritures. Il dit, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qu'est-ce que les Écritures témoignent? Témoignent de la gloire de Dieu, témoignent de la sainteté de Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu, mais Christ a vu Dieu parce que Christ est Dieu depuis l'éternité. Donc quand il dit, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, il est en train de parler de sa personne et de tout ce qui a été destiné depuis l'éternité. Il était là auprès de son Père depuis l'éternité. Et maintenant, il est venu pour témoigner de ces choses. Et il dit, vous ne recevez pas notre témoignage. Qui dit Dieu, dit Christ. Qui dit la parole de Dieu, dit Christ. Mais le problème, c'est que l'homme est toujours dans l'aveuglement. C'est quoi la nécessité de la nouvelle naissance que nous sommes en train de voir? Même avec toutes les évidences de ce que nous avons dans les Écritures et l'affirmation du Seigneur Jésus lui-même, l'auteur de ces Écritures, c'est écrit, vous ne recevez pas notre témoignage. Oh, quel aveuglement! Quelle dureté de cœur! Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui lisent aveuglément cette parole, toujours. Imaginant qu'ils ont une compréhension de ce qui est écrit, mais ils ignorent que tout ce qui est écrit s'agit du Seigneur Jésus. Si quelqu'un prend cette parole et l'ouvre et prêche autre chose que Christ et Christ crucifié, c'est un menteur, d'ailleurs même un criminel. Et il doit se taire ou faire face au jugement de Dieu. Nous ne devons pas prendre cette parole à la légère. C'est le témoignage de Dieu au sujet de son Fils. Mais les hommes de nature ne reçoivent pas ce témoignage. Alors, dans le verset 12, Christ dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » C'est seulement le Seigneur Jésus qui peut parler des deux, parce qu'il est venu dans ce monde étant le créateur du monde. Donc, qui est mieux placé de nous enseigner des choses terrestres si ce n'est pas celui qui a créé toutes choses? On ne peut pas avoir un meilleur professeur que le Seigneur Jésus au sujet de ce monde et les sciences. Mais il dit à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous? Et là, il est en train de dire, laissez à lui-même. Même avec l'intelligence que le Seigneur Jésus lui a donnée, faut reconnaître que notre façon de raisonner, c'est le don de Christ, ça vient de la main de Christ. Même dans l'intelligence naturelle. Mais si, dans les choses terrestres, nous n'arrivons pas à maîtriser ce qui concerne ce monde, comment est-ce qu'on peut imaginer alors comprendre les choses célestes? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme qui a toute connaissance sur toutes les sciences. Chacun a sa spécialité. Donc cela démontre l'infinité de cette création. Pourtant, Christ connaît toutes choses parce que c'est lui qui a non seulement créé toutes choses, mais qui gouverne toutes choses. Il n'y a rien qui n'existe, et cela aussi nous avons déjà vu dans le premier chapitre de cet évangile, concernant Christ, la parole de Dieu. C'est écrit, elle était au commencement avec Dieu, dans le verset 2, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc il n'y a pas de créature qui existe que Christ lui-même n'a pas créé et qui soutient cette créature jusqu'au jour où Christ décide maintenant sa fin. Mais si nous n'arrivons pas à comprendre les choses terrestres, les choses qu'on peut voir de nos yeux, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Cela montre encore la nécessité de la nouvelle naissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu les enseignements de Christ au sujet des choses célestes qui sont restés encore dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas venu pour eux. C'est dans ces pécheurs-là que le Père lui a donné, que Christ révèle son esprit, et lorsqu'il révèle en eux son esprit, voilà, ils sont nés de nouveau. Nous avons beaucoup d'exemples de cela. Nicodème lui-même, c'est plus tard qu'il va comprendre ce que c'est la nouvelle naissance, quoi qu'ici, il s'étonnait, parce qu'il était un de ceux pour qui Christ est venu, et au moment voulu, par Christ, non pas Nicodème, mais par Christ, il s'est révélé en lui. Le brillant qui est mort avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. C'est jusqu'au dernier moment qu'il se moquait avec l'autre, mais à un moment donné, le Seigneur l'a sur la croix. Et voilà un exemple où le vent souffle où il veut, et on entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Qu'est-ce qui a provoqué ce brigand au dernier moment, maintenant, de se tourner vers Christ, quoi qu'il était allié avec l'autre brigand, jusque-là en se moquant de Christ, mais maintenant, d'un coup, il dit, souvenez-vous de moi, lorsque vous venez dans votre royaume. Voilà quelqu'un qui est entré dans le royaume de Dieu. Pas un royaume physique, visible, mais spirituel. D'avoir cette fraternité avec le Seigneur Jésus par sa grâce à cause de sa mort accomplie. Alors, quelle est la nécessité de la nouvelle naissance? Premièrement, pour conclure, sans la nouvelle naissance, un pécheur ne peut être converti. La conversion, tournée vers Christ, la conversion, la repentance qui est la foi en Jésus-Christ, c'est le fruit de la nouvelle naissance. Et quelqu'un ne s'est jamais repenti ou n'a jamais cru en Christ, qui n'est pas d'abord né de nouveau. Il ne faut pas renverser l'ordre, dire d'abord il faut se repentir et croire en Christ, alors pour naître de nouveau. Non, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. C'est ce que Christ a dit dans le verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir spirituellement celui qui est le roi, qui est le sauveur, qui est le rédempteur et la rançon de son peuple. Deuxièmement, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de preuve de l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas par notre intelligence intellectuelle de la Bible. Je connais beaucoup qui ont mémorisé pas mal de versets de la Bible, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est évident. Comme Christ a dit, ce qui est né de la chair est chair. On peut lire cette parole comme les pharisiens qui croyaient avoir en elle la vie éternelle, mais qui n'étaient pas convertis. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de preuve de l'œuvre de l'esprit. Et puis, troisièmement, sans la nouvelle naissance, un pécheur ne peut même pas comprendre le mystère de la nouvelle naissance. Tel que Nicodème, on peut peut-être saisir des parties, mais je dois dire que c'est un mystère. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu seul qui sait ce qui lui appartient et pour qui Christ est mort. Donc, Dieu est souverain en cela, en ce qu'il fait naître de nouveau et ce qu'il laisse à eux-mêmes. S'il nous a fait naître de nouveau, rendons la grâce et la gloire à lui, parce que cela ne dépend pas de nous, mais c'est de Dieu. Alors que le Seigneur daigne bénir ce temps dans sa parole. Prions. Seigneur, je te remercie pour cette occasion, ces moments de passer ensemble, et je te prie de prendre cette parole et de la semer là où il te plaît. Je ne suis que le messager, et je te remercie personnellement du fait que il est arrivé un jour où il t'a plu d'ouvrir mon cœur qui était dans les ténèbres et de me faire naître de nouveau pour que je puisse connaître ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et être attiré à lui et aujourd'hui le prêcher tel qu'il est révélé dans les Écritures. Nous savons que ça, c'est la preuve de la nouvelle naissance, d'être attaché à Christ et à Christ seul. Alors que ton nom soit glorifié en toutes choses, et je te remercie pour ceux que tu as amenés aujourd'hui à suivre cette étude avec moi, que ton nom soit béni et ton Fils soit honoré. Et c'est dans son saint nom que je te prie. Amen.